RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Il est 9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Merci d'avoir choisi notre antenne pour le débat du jour. Chaque matin, deux débatteurs, trois sujets. Et ce matin, nous sommes avec Émile Ackermann. Bonjour. Rabbin, essayiste, cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France. Éric Delage, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef du site Aletheia, aletheia.fr.
Aletheia.org.
.org, j'avais un doute.
Voilà. Vous avez cinq éditions différentes d'Aletheia en français.
Et c'est aletheia.org sur lequel il faut aller. Merci. Éric Delage, et ce matin, on va commencer par parler de la présidentielle américaine, Ludo Frenne.
Oui, ça se rapproche. C'est toujours aussi inattendu, imprévisible, frontal, pourrait-on dire. On va demander à nos débatteurs ce qu'ils en attendent de cette élection présidentielle aux États-Unis, parce que le monde a les yeux rivés quand même sur Kamala Harris et Donald Trump. Et puis on parlera aussi de la catastrophe espagnole. Quelles leçons peut-on en tirer? L'Église est aussi présente pour venir en aide aux sinistrés. Aletheia d'ailleurs en a parlé sur son site. Et puis la fusillade de Poitiers, y a-t-il une mexicanisation de la France? C'est une nouvelle formule, une nouvelle expression. Qu'est-ce à dire? Qu'entend-on par là? Et puis s'agit-il de la réalité, la fusillade de Poitiers, dont vous avez entendu parler bien sûr, notamment sur notre antenne?
Eh bien, on en parle de ces sujets jusqu'à 10h sur RCF et Radio Notre-Dame. Vous pouvez réagir à tout moment en nous envoyant un mail à l'adresse direct@radionotredame.com.
Donald Trump a promis un raz-de-marée de suffrages en faveur. Kamala Harris, sur une estrade de campagne à l'Université du Michigan, a assuré de son côté que l'élan était dans son propre camp et que donc elle allait aussi surprendre. Reste qu'aucun sondage ne parvient à départager Kamala Harris et Donald Trump à deux jours du scrutin. Jamais l'issue d'un duel présidentiel, semble-t-il, aux États-Unis n'avait été aussi imprévisible entre deux candidats que toute oppose. Est-ce qu'on peut justement, d'ailleurs, Émile Ackermann et puis Éric Delage, voir comment, à quelques heures maintenant du début de ce scrutin, comment vous voyez les choses et quelles sont les grandes lignes de fracture en fait qui opposent Donald Trump et Kamala Harris selon vous, Émile Ackermann?
Écoutez, moi j'étais assez choqué de voir le nombre de désinformations, de fake news qu'il y a aujourd'hui sur ce sujet et qui a été en grande partie provoqué par Elon Musk et le réseau Twitter qui est un grand soutien de Donald Trump. J'ai un vrai problème avec la situation. Je n'attends pas grand-chose finalement de la présidentielle, si ce n'est de prendre les leçons, de tirer les leçons pour la France, puisque on a vu aujourd'hui que des États-Unis qui sont très fracturés. On a des groupes politiques extrêmement polarisés et polarisants qui ne partagent même pas la même réalité. Et je pense que c'est ça en France qu'on doit surveiller vraiment de très près, puisque ça peut arriver très vite, le fait d'avoir des populations qui ne vivent même plus dans le même espace-temps, qui n'ont pas accès aux mêmes informations, au même traitement de l'information.
Et quels sont ces deux espaces-temps, Émile Ackermann?
J'ai pas envie de rentrer dans les lieux communs de ce qu'on appelle l'Amérique voilà, rurale, et puis l'Amérique bleue, voilà, démocrate, plutôt des villes. Je pense que c'est vraiment... De mondes différents où d'un côté on va beaucoup parler de l'immigration, on va beaucoup parler de ce qui se passe à la frontière, de pouvoir d'achat. De notre côté, on va parler plus de grandes causes de justice sociale, justice climatique. Et j'ai l'impression que on a atteint un stade où ces deux populations aujourd'hui aux États-Unis ne peuvent même plus se parler puisqu'elles n'ont même plus de terrain commun. Et c'est ça qui me terrifie un petit peu. Et je pense qu'en France, de loin, on peut pas avoir vraiment d'impact sur ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tirer les leçons. Il faut les tirer très vite parce que la polarisation de la vie politique et les fake news, la désinformation, elle est présente en France et ça s'aggrave de plus en plus. Donc c'est de ça, à mon avis, qu'il va falloir vraiment traiter.
On vit à l'heure américaine, Éric Delage ?
On vit à l'heure américaine, oui, probablement, parce qu'on est quand même tous, me semble-t-il, suspendus au résultat de cette élection, qui est importante, dont on sait qu'elle va naturellement changer peut-être des choses pour le peuple américain, mais aussi pour l'ordre du monde. C'est d'ailleurs, je pense, le seul intérêt que nous, Français, on trouve à cette élection, c'est de voir qui de Kamala Harris ou de Donald Trump passera, sera élu, parce qu'on sait très bien que ça va avoir une incidence directe sur nous, Français, nous, Européens, et sur l'ordre du monde, puisque les visions stratégiques et diplomatiques ne sont pas exactement les mêmes. Et on sait que ça aura des conséquences immédiates. Est-ce que Kamala Harris va pivoter plus doucement vers l'Asie que vers l'Europe, contrairement à ce que promet Donald Trump, qui lui, rien de moins, promet de régler le problème ukrainien en 24 heures chrono, ce qui est assez stupéfiant. Nous, en fait, on est suspendu à cette élection parce qu'on sait que ça a des conséquences immédiates sur nous, sur notre sécurité, à commencer par l'Europe.
Dans quelle mesure y a-t-il un effet miroir si jamais les deux sociétés sont polarisées, les nôtres, j'entends les sociétés européennes et puis la société américaine? Est-ce que vraiment on parle le même langage et est-ce que les deux camps sont marqués ici comme ils le sont là-bas? Éric Delage.
Je ne sais pas s'ils sont marqués de la même façon. Effectivement, on va retrouver au niveau de la politique intérieure les mêmes sujets sur le pouvoir d'achat, même si c'est sensiblement différent quand même aux États-Unis. Mais effectivement, on va retrouver toute une série de problématiques à laquelle Kamala Harris et Donald Trump ne répondent pas de la même façon, en tout cas sur le plan sémantique, que ce soit l'immigration, effectivement, le pouvoir d'achat, et puis la pauvreté. Le peuple américain a quand même beaucoup perdu en espérance de vie, en pouvoir d'achat ces dernières années, et c'est peut-être aussi ce qui contribue à polariser le débat dont parlait Émile.
Émile Ackermann.
Oui, il y a une envie aussi, ce que je perçois dans les personnes, en tout cas, qui votent pour Trump, les soutiens affichés de Trump, et il y a une envie, finalement, de rejoindre un mythe, le mythe américain, qui a été un petit peu battu en brèche avec la mondialisation. Et j'ai l'impression que Trump redonne un petit peu une vision plus nationaliste, plus patriotique, plus finalement ancienne, qui est inscrite dans l'histoire des États-Unis, quelque chose que nous, on n'a pas. Donc, s'ajoute à ça cette justement polarisation un petit peu du débat public médiatique. On a une forme de légende en fait trumpiste, c'est pour ça qu'il a pu se représenter finalement, une légende trumpiste qui a émergé, et en face de ça, Kamala Harris n'arrive pas du tout à représenter de la même façon une forme de, voilà, d'espérance pour le peuple américain aux yeux d'une grande partie. Elle n'incarne beaucoup moins, on va dire, le rôle, la stature présidentielle aux yeux de beaucoup d'acteurs de la politique américaine.
Ce n'est pas un Obama féminin.
Ah non, je pense.
Et pourquoi elle aurait pu?
Bah, ça c'est, il y a tout, il y a manque de charme, manque de charisme, mais aussi peut-être manque de profondeur dans le...
Manque de charme.
Manque de profondeur, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, oui. Finalement. Donald Trump a du charme, du charisme, même si on n'aime pas du tout ses méthodes. Je pense qu'il y a peut-être un manque de profondeur parce qu'elle estime qu'il faut avoir une profondeur dans les débats, alors que Trump ne s'embarrasse pas de tout ça. Il parle vraiment un langage vraiment du peuple extrêmement simpliste et il ne s'embarrasse pas de chercher à avoir une forme de complexité dans ses propos. Je pense que c'est quelque chose aussi qui plaît beaucoup.
On n'est plus. Elle devait être aussi l'anti-Trump. C'est peut-être une stratégie électorale d'être l'anti-Trump et effectivement de ne pas asséner, comme le fait sans doute Donald Trump, des vérités de façon très verticale.
En tout cas, pour Hillary Clinton, ça n'avait pas marché. Donc, si elle retente la même expérience, je pense que ça va finir pareil. Alors, je ne veux pas forcément chacun va faire ses pronostics, mais en tout cas, tous les sondages, les instituts de sondage qui avaient donné Trump gagnant à l'époque donnent Trump gagnant aujourd'hui.
Éric Delage.
Pour rebondir sur le profil de Kamala Harris, ce qui est très surprenant, c'est aussi de voir comment elle a été choisie, hein, presque par défaut. Donc lui demander d'être une Obama au féminin, c'est quand même un peu particulier. Moi, je crois que le Parti démocrate a une grande responsabilité là-dedans, d'avoir parié sur Joe Biden au début, alors qu'on savait qu'il était vieillissant, et puis remplacé au pied levé dans l'espace d'un week-end par Kamala Harris, sa vice-présidente, dont le charisme est certain, mais peut-être un petit peu discutable, et pas complètement forcément en phase avec l'électorat même démocrate.
Et c'est ce qu'on disait aussi, justement sur la polarisation, c'est-à-dire que Kamala Harris, Joe Biden, Kamala Harris était censé représenter les centristes de gauche vis-à-vis de personnalités plus clivantes comme AOC et Bernie Sanders. Ces personnes-là ont été écartées justement au profit de Joe Biden et Kamala Harris qui étaient censées être des personnalités rassembleurs, mais ça ne marche plus aujourd'hui d'être des personnalités rassembleuses.
Alors pourquoi ? C'est ça quand même.
On veut des messages forts, on veut des personnalités vraiment dures, et le fait d'essayer de... On est tout le temps en train d'être finalement rattrapé sur son extrême, donc à gauche sur son extrême gauche, à droite sur son extrême droite. Et je pense que là, pour le coup, il y a vraiment un parallèle à faire aujourd'hui. En France, on a une exigence de pureté militante. Et si vous regardez aujourd'hui l'extrême gauche aux États-Unis, ce qu'ils vont reprocher, c'est eux qui appelaient Joe Biden Genocide Joe, ou je ne sais plus quel est le surnom de Kamala Harris aujourd'hui, mais c'est-à-dire ils sont dépassés en fait finalement par leurs extrêmes.
Pourquoi on n'arrive plus à produire, ou cette société n'arrive-t-elle plus à produire des personnalités qui rassemblent? y compris qui ont du tempérament. Si on regarde des présidents américains de l'époque contemporaine, je ne sais pas moi, Eisenhower, ou alors évidemment c'était la guerre froide, mais c'était des personnes qui avaient du tempérament, qui étaient ou Reagan, c'était des personnes qui avaient quand même du tempérament et qui ont su imposer quand même une image de l'Amérique au monde. Et qui ne passaient pas pour des personnes effacées, de second rang, vous voyez, qui pouvaient rassembler. Éric Delage, c'est peut-être un petit peu d'histoire, mais on ne comprend pas pourquoi on n'arrive plus à produire de personnes qui peuvent parler à tout le monde.
C'est peut-être pas propre qu'aux États-Unis, hein, ce type de profil. Moi, je crois que l'environnement médiatique fait que on privilégiera toujours des personnalités clivantes auxquelles on peut s'identifier, sans forcément avoir ce souci de rassemblement qui est propre aux clés de voûte des institutions. Là, je parle des États-Unis, mais aussi parfois de la France. Hein. On voit bien aussi le profil du personnel politique en France, sans faire de rapproche pour trop rapide.
Oui, c'est peut-être vrai qu'il y a une grande responsabilité médiatique dans le sens où ce sont les paroles les plus fortes et les plus simples qui vont être le plus virales, le plus vite possible. Et donc, un acteur politique ne voit pas véritablement d'intérêt à développer un discours de fond, en tout cas de manière publique, parce qu'il ne va pas trouver d'écho. Enfin, moi, je le vois à ma petite échelle, hein, sur Twitter. Hein, si je dis des petites punchlines, je peux avoir 30 000 likes. Et si j'essaie de développer un trait d'une pensée quelconque, c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas encouragé aujourd'hui par le système des réseaux sociaux, le système médiatique, à développer une pensée, à rentrer en profondeur. C'est d'ailleurs tout à votre honneur qu'on soit que deux aujourd'hui, les invités, justement pour qu'on ait le temps de discuter. Mais si vous regardez aujourd'hui les plateaux, il y a sur des BFM, il y a 8 personnes, CNews, il y en a 6 autour du plateau. C'est des échanges extrêmement rapides. On est passé au-delà de la génération zapping, mais on est toujours on va plutôt de pire en pire que...
Nous, c'est l'inverse. Hein. On regarde vraiment attentivement ce que vous pouvez dire et comment vous pouvez faire grandir le jugement. Il y a une dimension...
Et les auditeurs peuvent réagir, direct@radionotredame.com. Ça réagit sur Valence, on en parlera. Mais on attend vos retours et vos réactions sur ce débat autour de l'élection américaine, Louis.
On a une dimension importante peut-être à analyser, c'est le poids du facteur religieux dans l'élection américaine. On dit que la droite chrétienne est derrière Donald Trump, mais tous les évangéliques ne votent pas non plus pour Donald Trump. Et il y a une partie qui est pour Kamala Harris et une partie aussi qui s'abstiendra, semble-t-il, hein, selon des études que l'on a pu regarder. Et Kamala Harris a pu faire valoir, on l'a dit aussi sur cette antenne, une certaine affiliation religieuse auprès de l'église baptiste à laquelle elle appartient, notamment. Comment voyez-vous cette réalité religieuse dans l'importance qu'elle peut recouvrir pour cette élection américaine, Éric Delage?
Elle est importante. Moi, je suis toujours stupéfait par ces sondages très précis qui sectionnent une société en fonction de l'église à laquelle on appartient. Effectivement, sur le vote chrétien, notamment aux États-Unis, il me semble plutôt acquis à Donald Trump pour tout un tas de raisons. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça en fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez et des origines ethniques des chrétiens dont on parle. Sur l'électorat catholique que je connais un peu mieux, il y a 20%, 21% de catholiques aux États-Unis. On voit bien là encore que les sondages sont incapables de départager Kamala Harris de Donald Trump. On est à 48-52, ça change régulièrement.
C'est surprenant.
Oui et non, parce que en définitive, on va retrouver chez les partisans de Kamala Harris et les partisans de Donald Trump des intérêts qu'ils portent au nom de leur baptême aussi. Donc, ce sera toujours fonction de la localisation de ces chrétiens et de leur origine ethnique. C'est peut-être le pape François qui avait, de façon la plus lapidaire, résumé cette opposition, hein, renvoyant quasiment dos à dos les électeurs. En disant que Donald Trump et Kamala Harris n'étaient pas des candidats pour la vie. Et on ne parlait pas forcément de l'avortement, on parlait aussi du sort des migrants mexicains. Voilà, c'est toutes ces fractures auxquelles sont confrontées la société américaine qui sont incarnées alternativement par Donald Trump et Kamala Harris.
Mais il y a un prisme, en tout cas à l'intérieur de l'Église, qui montre une tension entre l'Église américaine et le Vatican. Et le pape François, on voit surtout ça, cet aspect-là, comme s'il y avait une opposition plus directe entre les deux mondes.
Peut-être au niveau de l'épiscopat, pas forcément au niveau des pratiquants, me semble-t-il.
Moi, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire des chiffres plutôt de la communauté juive aujourd'hui aux États-Unis. On sait qu'à l'époque, sur 80% des juifs américains avaient voté pour la candidate démocrate, mais 80% des juifs orthodoxes avaient voté pour Trump. Et peut-être qu'il y a un prisme aussi à voir entre conservatisme et progressisme, dans tous les cas, c'est-à-dire plus on est affilié à on va dire une église ou une synagogue ou n'importe une mosquée, voilà, plus ou moins progressiste, on va aller se diriger vers les candidats progressistes, et plus on est dans une vision religieuse qui est conservatrice, on va aller avoir tendance à se porter sur les candidats qui ont l'air en tout cas de porter des valeurs conservatrices, même si moi je suis assez sceptique sur les valeurs que porte Donald Trump en termes de religiosité ou de...
C'est-à-dire
que c'est pas une personne qui a un comportement qu'on attend, voilà, d'une personne qu'elle soit chrétienne, pratiquante.
Au moment où il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat, sa première réaction avait été de dire « Dieu m'a sauvé ».
Oui, bon, ça c'est facile, Dieu est toujours avec nous. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Dieu est avec nous », que ce soit dans l'histoire et pas forcément les meilleurs. C'est facile, a posteriori, quand il nous arrivait quelque chose de bien de le dire. En tout cas, voilà, il a eu toutes ces affaires de mœurs, je pense notamment à ça. C'est pas quelqu'un qui représente... son électorat chrétien ou juif, c'est pas quelqu'un qui représente ses valeurs. Il y a souvent une forme de séparation entre ce qu'il va afficher comme valeur ou comme projet de société et ce que lui va faire dans sa vie privée.
On a du mal à évaluer d'ailleurs l'abstention qui résultera de ce regard.
Potentiellement. En tout cas, aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus qu'un pays quand même plus puritain au départ. Il y avait beaucoup plus d'attentes jusqu'à Trump du comportement qu'allait avoir, que pouvait avoir un candidat, alors qu'en France, on a qu'il faut quand même beaucoup en termes d'histoire de mœurs ou de vol ou de désormais de fonds pour qu'un candidat soit écarté.
Le rapport au Proche-Orient peut jouer sur cette élection?
Clairement, c'est-à-dire que Trump s'affiche comme étant le plus pro-israélien des Israéliens, des pro-israéliens, donc il promet à la communauté juive le fait qu'il va les protéger, donc il renverse un petit peu, c'est Bruno Carcenti qui disait ça, que finalement, il renverse l'histoire, il revient en arrière, où il promet aux Juifs la protection du souverain et non plus la protection par le droit, alors que Kamala Harris, elle s'est affichée comme pro-israélienne dans le sens américain où c'est la norme, mais déjà un petit peu plus dans la complexité et dans une approche qui n'est pas unilatérale. Et ça fait beaucoup de mal pour certaines personnes de la communauté juive qui auraient pu voter pour Kamala Harris, étant donné post 7 octobre. Il y a eu tout un plan de la communauté juive qui a fait chacun un pas à droite, peu importe de là où ils étaient, tout le monde a fait un petit peu un pas à droite du fait de la menace qu'ils ont ressentie en Israël, mais aussi sur les campus américains, et à la réponse du pouvoir qui, à leurs yeux, n'a pas été à la hauteur.
Et là, on verra aussi les conséquences de l'actualité sur le vote américain dans quelques heures, en fait. Les choses commencent.
Effectivement, et après la pause, dans quelques minutes, cette fois, on va continuer à parler avec nos deux débatteurs de la catastrophe espagnole. Ce qui s'est passé à Valence, plus de 217 victimes des inondations, c'est ce qu'indiquaient ce matin les derniers bilans, même si de nombreuses personnes sont encore portées disparues. Comment s'adapter à ces changements climatiques? Dites-le nous par mail, votre réaction sur cette catastrophe espagnole, direct@rcf.fr et direct@radionotredame.com. On en parle avec Émile Ackermann, rabbin essayiste, cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France, et Éric Delage, il est rédacteur en chef du site Aletheia. Rendez-vous sur aletheia.org.